ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Notre Ville, regard vers le futur. Une émission de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse, portée par l'AGLCA, Altec et la MJC Popcorn, qui propose d'imaginer notre ville en 2050 via des projections concrètes. Alors je m'appelle Guillaume Poncelet, je travaille à la MCC et je serai accompagné pour cette émission d'Antonin Rat, chef de projet de transition écologique de la ville de Bourg-en-Bresse. Bonjour Antonin.
Bonjour Guillaume.
Heureux d'être ici?
Oui, bien sûr.
Parfait. Alors aujourd'hui, avec Antonin et avec vous, chers auditeurs, nous allons parler de la biodiversité. Donc on va apprendre des choses, se faire un peu peur quand même, mais surtout parler d'actions concrètes et bien évidemment imaginer un futur désirable. A tout de suite.
Vous écoutez Notre Ville, regard vers le futur, sur Radio B.
Alors, on va vous parler aujourd'hui de biodiversité. Alors déjà, Antonin, c'est quoi la biodiversité?
La biodiversité, en fait, c'est la diversité du vivant. Donc c'est à la fois la diversité des espèces, c'est souvent à ça qu'on pense en premier, combien il y a d'espèces différentes, mais ça englobe aussi la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce. Donc est-ce qu'il y a des variabilités entre les individus? Et aussi la diversité des écosystèmes. Donc c'est toute la diversité du vivant, ça va aussi bien comprendre les animaux, dont forcément l'homme, les plantes, mais aussi des choses auxquelles on pense un peu moins, les bactéries, les protozoaires, qui sont notamment dans le sol, par exemple.
Ok, du coup, la biodiversité, il y en a partout.
Oui, vraiment partout, parce que c'est vraiment à la fois ce à quoi on pense, les grands écosystèmes, la forêt vierge, etc., mais c'est aussi dans nos tubes digestifs, c'est aussi dans le sol, c'est vraiment l'ensemble du vivant qu'on retrouve à la surface de la planète.
Une biodiversité qu'on va parler aujourd'hui qui est en crise. Moi, je vous avais préparé, chers auditeurs, quelques chiffres qui sont quand même assez alarmants. Alors, on commence. 68% des populations de vertébrés, mammifères, poissons, oiseaux, reptiles ou amphibiens, ont disparu depuis 50 ans. Donc, c'est énorme. On a 40% des insectes qui sont en déclin au niveau mondial. Alors qu'au moins 75% de nos cultures alimentaires, il faut le rappeler, dépendent d'insectes pollinisateurs. Et plus de 85% des zones humides ont été détruites. 66% des milieux marins sont détériorés. Et 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers des mammifères marins sont menacés. Et pour finir, 15 milliards d'arbres sont abattus chaque année dans le monde. Alors Antonin, des chiffres assez gros, des gros pourcentages, est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus?
Non, je trouve que c'est assez parlant. Hein. Quand on parle de perte de biodiversité, souvent on a tendance à penser à certaines espèces emblématiques, aux ours polaires, aux pandas géants. Mais on a du mal à se représenter que c'est un phénomène qui est beaucoup plus général et qui concerne vraiment l'ensemble de la planète et quasiment des espèces, comme le montrent très bien les chiffres que tu viens de donner. Il y en a un autre de chiffres qui me semble vraiment représentatif. Selon les estimations des scientifiques, aujourd'hui, à la surface de la planète, on a deux fois plus de plastique que d'animaux sauvages en termes de poids. Donc, ils estiment qu'il y a 8 gigatonnes de plastique sur la planète et 4 gigatonnes d'animaux sauvages. Donc ça montre quand même que l'être humain a un réel impact sur l'ensemble de la surface de la planète. Voilà.
Alors un impact effectivement, parce que du coup cette crise de la biodiversité, elle est causée par quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire par quoi est-ce qu'elle est causée?
Donc la première, c'est la destruction des milieux naturels en fait, donc principalement par de l'artificialisation. Typiquement, on détruit un milieu naturel ou un espace agricole pour construire un parking, un supermarché, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être un changement d'usage des sols, donc la déforestation pour aller créer de nouvelles surfaces de culture, typiquement, ou pour de l'élevage. Donc ça, c'est la première cause, c'est vraiment la destruction directe des milieux. La deuxième, c'est la surexploitation de certaines ressources. Donc c'est typiquement la pêche industrielle qui va cibler trop certaines espèces de poissons qui, du coup, n'ont pas le temps de suffisamment se reproduire pour reconstituer les stocks. Dedans, ça inclut aussi le trafic illégal, donc tout ce qui est lié au braconnage, etc. Ensuite, on a le dérèglement climatique avec le symbole un petit peu de l'ours polaire qui montre que les changements climatiques peuvent avoir un impact direct sur certaines espèces. La cause suivante, c'est les différentes formes de pollution. Donc typiquement, c'est tout ce qui est lié aux biocides, donc tous les mots qui se finissent en cides, qui servent à tuer quelque chose, donc des herbicides à tuer des plantes, des insecticides à tuer des insectes, des fongicides à tuer des champignons. Forcément, c'est des produits qu'on utilise typiquement en agriculture pour protéger les cultures, mais qui détruisent d'autres espèces vivantes, et ça a nécessairement un impact sur la préservation de ces espèces-là. Et enfin, la dernière, c'est le développement des espèces exotiques envahissantes.
Pour santé. Donc, on a commencé avec un constat pessimiste sur cette émission. Mais il faut savoir que là, c'est un constat actuel. Dans le futur, ça pourrait être pire. On a dit qu'une des causes l'effondrement de la biodiversité était le dérèglement climatique, notamment. Le dérèglement climatique qui va avoir de plus en plus d'impact. Certaines projections du GIEC, ils indiquent des pics à température à 55 degrés dans notre région. Alors, je crois que ce n'est pas 2100, c'est 2050, c'est 2100. Mais à 55 degrés, je ne suis pas sûr qu'il y a grand-chose qui survive aux pics de chaleur dans nos rues, s'ils ne sont pas abrités en tout cas. Donc, pour ne pas baisser les bras quand même et se remotiver un petit peu, je te propose, Antonin, qu'on passe à l'action ensemble. Qu'on discute un peu de ce qu'on peut faire dans notre société pour limiter cette destruction et peut-être même la restaurer. Est-ce que tu es prêt ?
Évidemment.
Parfait. Alors, on va commencer par l'interview d'Emma Renard, qui travaille au syndicat Ressous et Affluents. Bonjour Emma.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement les missions de votre structure ?
Donc, le syndicat Ressous et Affluents, nos missions, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, ça regroupe de près ou de loin toutes les questions qui sont liées à l'eau, à la résilience de nos territoires, donc à la fois à l'aspect sécheresse et l'aspect inondation, et une mission aussi de gestion plus durable des écosystèmes aquatiques et des zones humides qui les accompagnent. Et donc, on a un gros axe de travail sur la préservation et la restauration des zones humides, puisque avec le temps, on s'est rendu compte que c'est elles qui font la qualité et la quantité de nos cours d'eau.
D'accord. Du coup, une restauration également de la biodiversité, j'imagine.
Donc, avec le syndicat, on travaille sur à la définition de la trame turquoise du bassin versant depuis 2021. Donc, la trame turquoise, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui a été proposé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour réussir à parler de la biodiversité. Et en fait, ça recoupe tous les espaces qui peuvent être utilisés à un moment ou à un autre par une espèce qui a besoin d'un milieu aquatique ou humide à un moment de son cycle de vie. Et donc, l'idée, c'est d'étudier de quels espaces ces espèces-là ont besoin sur notre territoire. On va différencier des espaces de réservoirs où les espèces elles vont pouvoir vivre, manger, se reproduire, et des espaces de corridors qui sont les milieux qui leur permettent de se déplacer d'un réservoir à l'autre, par exemple pour passer d'un endroit d'hibernation à un endroit de reproduction, à un endroit de nourrissage. Et donc nous, cette trame, on l'a dessinée avec le bureau d'études Terroico, qui a des logiciels de modélisation très poussé. Et donc, on a travaillé notamment sur le murin de Daubenton, qui est une espèce de chauve-souris, sur les papillons qui sont liés aux prairies de zones humides, sur les libellules des eaux courantes, les amphibiens, les oiseaux d'eau, les petits oiseaux de bocage, parce que le bocage chez nous est très lié aux zones humides et aux cours d'eau, et les petits mammifères, pareil, bocagés. Et donc, c'est à partir des modalités de vie et de déplacement de toutes ces espèces sur notre bassin versant, vraiment appliquées à notre territoire, qu'on a pu définir des espaces nécessaires à la vie de ces espèces, mais aussi de toutes les autres espèces associées à ces habitats-là.
D'accord. Du coup, avec ce plan, vous mettez des actions de protection ou de restauration. Du coup, vous faites des actions concrètes après, grâce à ce plan. C'est ça ?
C'est ça. En tout cas, ce plan, il nous permet de vraiment mettre en lumière les espaces qui sont essentiels à la survie de ces espèces-là et de ces milieux-là. Et donc, de pouvoir aussi montrer, quand on parlait de changements qui sont en train de s'effectuer, sur notre territoire, on a quand même une grosse urbanisation qui est en cours, aussi des fortes transformations dans les systèmes agricoles. Et tout ça, ça implique des changements dans le paysage et au final, on se rend compte qu'il y a quand même une dégradation de cette trame, même si on a la chance qu'elle soit encore existante chez nous, ce qui n'est pas le cas de tous les territoires en France. Nous, on a quand même une trame qui est fonctionnelle, mais qui commence à présenter des faiblesses. Et donc, la trame turquoise, elle nous a permis d'identifier ses faiblesses ou ses points forts et de chercher ensuite à mettre des actions en face qui vont permettre de préserver ou de restaurer ces milieux. Là, par exemple, sur Bourg-en-Bresse, l'ensemble des travaux, ils vont nous permettre vraiment d'avoir une connectivité pour les espèces depuis l'amont du bassin versant qui est encore assez naturel. Là-bas, on est vraiment sur des secteurs de forêt humide. C'est grâce à la trame turquoise qu'on peut identifier très clairement que ces zones de forêt humide, elles sont essentielles pour le fonctionnement global du territoire. Et donc, par exemple, ça va nous servir sur le projet. On a décidé, on va replanter un boisement entre le nouveau lit de la Ressouze et le golfe de Bouvant. Et on a choisi de faire un boisement de type humide parce qu'on sait que les espèces qui habitent ces milieux, enfin ce secteur-là, et qui ont besoin de se déplacer, elles ont besoin de ce type de milieu.
Okay.
Donc ça nous permet en fait de réfléchir et de proposer des aménagements qui vont être cohérents avec, enfin en tout cas qui vont aider la trame turquoise.
Eh bien, un grand merci à Emma Bernard pour avoir répondu à ces quelques questions. Alors, Antonin, est-ce que tu as une réaction à ce petit interview ?
Ça fait vraiment partie de ce qu'on cherche à faire, rétablir ces fameuses continuités écologiques.
Eux, ils travaillent surtout sur la trame turquoise. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs couleurs.
Alors en fait, ces notions de trame, donc Emma a très bien expliqué ce qu'était la trame turquoise juste avant et quel était l'intérêt en fait pour les espèces qui ont besoin de se déplacer pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir vivre, etc. Et en fait, parfois, on a des barrières qui peuvent être physiques hein, et qu'on peut faire des fois très facilement identifier, typiquement une autoroute, on se rend bien compte qu'une autoroute avec des grillages de chaque côté, ça va créer une fracture pour que les espèces terrestres puissent passer d'un côté à l'autre. Donc ça, typiquement, c'est l'exemple pour la trame verte, donc qui est la trame des milieux terrestres, où on va essayer de trouver des adaptations. Donc typiquement, les sociétés d'autoroute vont construire un éco-pont, un pont qui permet à certains animaux de passer par-dessus l'autoroute ou par-dessous pour pouvoir circuler. Mais toutes ces solutions techniques, que ce soit un éco-pont, une passe à poissons, ça reste des solutions qui sont toujours partielles. Ça ne répond pas aux besoins de toutes les espèces. Typiquement, une passe à poissons, comme le nom l'indique, c'est adapté pour les poissons. Par contre, pour tout ce qui est mollusques, micros, invertébrés, etc., qui vont vivre dans le fond des rivières, etc., finalement, ça répond très rarement à leurs besoins de se déplacer. Donc on est toujours sur des solutions qui sont partielles et qui ne sont pas idéales. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître les trames avant de faire ces aménagements-là, pour essayer que ces aménagements soient le moins impactants possible et essayer de préserver au mieux les trames. Donc en fait, on a des solutions techniques pour résoudre des problèmes, mais qui ne sont forcément pas parfaites. Donc l'idéal, c'est d'éviter de créer les problèmes en amont. Ces deux trames marron et bleu, c'est les deux sur lesquelles il y a des obligations réglementaires. Donc typiquement, les collectivités doivent en tenir compte dans la définition de leurs documents d'urbanisme pour justement éviter de venir perturber ces deux trames principales qui sont les trames terrestres et les trames aquatiques. Et si on dit quelques mots sur les autres trames qui sont souvent plus méconnues du grand public, typiquement la trame marron, qui est la continuité du sol, là on n'a pas d'obligation réglementaire à l'heure actuelle. Mais en fait, on sait par exemple que une simple route ou même une piste cyclable goudronnée, en fait, ça crée une barrière pour certains animaux qui vivent dans le sol, qui ne vont pas pouvoir passer dessous, parce que dessous, la terre va rester sèche, elle ne sera pas alimentée en humidité, beaucoup moins en surface, forcément. Et la trame noire, c'est celle qui parle des continuités nocturnes. Donc là, on est sur des barrières qui sont moins physiques et des fois moins appréhendables.
Alors on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Peut-être une petite dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres actions pour la biodiversité qui peuvent être engagées ?
La première chose vraiment pour les collectivités, c'est vraiment sur les documents d'urbanisme où on peut à la fois préserver l'existant, mais aussi des fois restaurer certaines choses. Donc typiquement ce qu'Emma expliquait sur la restauration de la Ressouze, les travaux actuels. Ça, c'est vraiment la première phase et le plus important, c'est comment, dans nos documents d'urbanisme, on oriente du coup l'aménagement de notre territoire, parce que finalement, c'est ça qui va va créer des ruptures de continuité, va détruire certains milieux. Donc comment on fait pour limiter l'étalement urbain, pour préserver les espaces agricoles et naturels? C'est vraiment la priorité. Et ensuite, il y a des actions qui sont, je dirais pas plus faciles, mais qui sont aussi très intéressantes. C'est typiquement la gestion des espaces verts. Comment est-ce qu'on va gérer les espaces qui sont gérés directement? Donc ça peut aussi bien concerner les collectivités qui gèrent des parcs que des entreprises qui ont souvent aussi une partie d'espaces verts aux abords de l'entreprise, que des particuliers qui ont une cour ou un pied d'immeuble en copropriété.
Ok, moi j'avais vu une petite action pour vous partager que j'avais trouvé drôle. Je ne sais pas si ça va impacter vraiment les choses, mais maintenant on peut, quand on vend son bien, sa maison, son appartement, plus sa maison du coup, on peut mettre des clauses de biodiversité, des clauses environnementales, et je trouve ça fou de pouvoir dire bah, pendant 90 ans, l'arbre dans mon jardin, personne ne le coupera parce que c'est indiqué sur le contrat. Voilà, je trouve ça fou, on va voir si ça fonctionne. Pour terminer l'émission, Antonin, une petite dernière question. Toi, ta ville du futur, elle ressemble à quoi?
Il apporte une ville avec moins d'espace dédié à la voiture, plus d'espace dédié aux êtres vivants et aux êtres humains aussi. Des endroits où on peut se déplacer à pied, où on peut échanger, où on peut discuter, où on peut s'asseoir. Et avec beaucoup de végétalisation, beaucoup d'arbres notamment qui apportent de l'ombre.
Bah, une très belle vision, Antonin. Bah, merci beaucoup. Pour le dernier mot de la fin, on peut vous donner rendez-vous le samedi 30 novembre au théâtre de Bourg, parce qu'il y a un événement Citoyens pour nos rivières organisé par le syndicat de la ressource des affluents. Vous pourrez échanger avec élus et spécialistes. Et ben, merci à tous et on vous dit à la prochaine.
Merci beaucoup.
À ton avis, Bourg-en-Bresse en 2050, ça ressemblera à quoi?
Tu crois qu'on entendra toujours le chant des oiseaux?
Aurais-je trop chaud dans mon appartement l'été?
Tu penses qu'on pourra faire pousser des légumes sur le toit?
Est-ce que je me sentirai à ma place dans cette ville?
Est-ce qu'on sera solidaires entre nous?
Quand on pense à la ville du futur, on se pose plein de questions.
Et toi, t'en penses quoi ?